Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Loin des grands drames qui agitent la planète, des grandes crises, loin des réseaux sociaux les plus fréquentés, l'économie cubaine périclite lentement mais sûrement. Les magasins sont vides, la nourriture est quasiment rationnée. Pour se déplacer, plutôt la voiture à cheval que la voiture à moteur. Le nombre des touristes est en forte baisse. Alors qui est responsable de cette situation? Le gouvernement cubain qui n'a pas réformé, ouvert son économie assez rapidement, ou le président américain Donald Trump qui a durci l'embargo qui pèse sur Cuba depuis 1962 et rendu les choses plus difficiles encore pour le quotidien des citoyens cubains. Ces questions, nous allons les poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Stéphane Witkowski.
Bonjour.
Stéphane Witkowski, vous êtes consultant indépendant auprès d'entreprises françaises et latino-américaines. Vous enseignez à l'ILERI, l'Institut libre des relations internationales ici à Paris. Au cours de votre carrière, vous avez été chef du service Amérique du MEDEF, le patronat français, et vous êtes également président du conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique latine à Paris. Vous avez effectué de très nombreux séjours à Cuba depuis une vingtaine d'années. Et vous en revenez d'ailleurs. Avec vous en studio, Jérôme Leleu. Bonjour Jérôme Leleu.
Bonjour.
Jérôme Leleu, de 2013 à 2017, vous avez animé le séminaire « Problèmes économiques et sociaux contemporains à Cuba » à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous préparez une thèse de doctorat consacrée à la planification économique à Cuba. Vous êtes, entre autres, l'auteur d'un texte intitulé « Plan et marché, les défis de l'accumulation à Cuba » que vous avez publié en septembre 2018 dans la revue Actuel Marx. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr. Tout au long de notre conversation, nous retrouverons ceux de Domitil Piron, la correspondante de RFI à La Havane. On va tout de suite aller au cœur du sujet. Je le disais en présentant l'émission, l'économie cubaine est asphyxiée par le durcissement de l'embargo voulu par le président Donald Trump. Quelles conséquences pour les Cubains? Écoutez ce premier reportage de Domitil Piron.
Cela fait 58 ans que nous subissons le blocus et nous sommes toujours là, explique Esteban Guerrero Núñez. Cet ancien avocat a eu l'idée en 2016 de se reconvertir en chauffeur de vieilles voitures américaines pour touristes, en voyant l'embellie des relations américano-cubaines avec le rapprochement entamé par Barack Obama et Raúl Castro. Héritier d'une belle Chevrolet 58 Impala qu'il a retapée à la hâte, il attendait à bras ouverts les touristes américains, mais c'était sans compter sur l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.
D'un point de vue économique, ce qui nous a beaucoup affecté, c'est l'arrêt des bateaux de croisière, parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans travail.
20% de touristes américains en moins, c'est le résultat concret de l'interdiction des bateaux de croisière depuis juillet dernier. Puis en octobre, Washington décide également de limiter au seul aéroport de La Havane tous les vols commerciaux et charters en provenance des États-Unis. Le secteur touristique est le plus touché par ces mesures. En 2019, Cuba enregistre alors une baisse de visiteurs de 9%. Le collègue d'Esteban, qui se désespère lui aussi d'attendre que des touristes montent dans sa vieille voiture, Yan Ruilova, estime ces sanctions injustes pour les travailleurs du secteur privé.
Tout cela nous affecte directement et pas d'autres branches de l'économie. L'État, ça ne l'affecte pas. Ça nous touche, nous, les travailleurs, nous qui vivons du tourisme et de cet argent, vit le mécanicien, le ponchero, le carrossier, celui à qui on achète à manger, le cordonnier.
Depuis l'année dernière, 60% des entrepreneurs constatent une baisse de leur clientèle et la moitié d'entre eux ont plus de mal à importer des produits en provenance des États-Unis. Le secteur privé est le plus impacté, mais l'économie cubaine dépend aussi largement des remessas, les mandats d'argent envoyés depuis l'étranger. Et là encore, l'administration Trump freine les élans de générosité de la diaspora en imposant à Western Union un plafond de 1 000 $ par trimestre et par personne. Des files d'attente de plusieurs heures et des centaines de voitures à l'arrêt devant les pompes à essence, c'est sans aucun doute l'image la plus marquante de l'impact des sanctions américaines. Cuba accuse Donald Trump d'intimider les pétroliers avec de possibles sanctions s'il continue d'approvisionner l'île. Certains navires recevraient même des messages radio menaçants dans le golfe de la Floride. Résultat, Cuba rationne l'essence et le diesel depuis le mois d'octobre et Michael, dans sa vieille voiture rouge américaine, attend à la pompe comme la vingtaine de voitures devant lui.
Je ne comprends pas. Ils disent que le problème vient du président des États-Unis. Mais bon, ils nous bloquent depuis des années. Alors on verra. Ils disent qu'il ne sera pas réélu. C'est ce qu'on espère.
Cette situation de crise économique avait pourtant été qualifiée en novembre dernier de conjoncturelle par le président Díaz-Canel. Mais avec les fréquentes pénuries de médicaments, gaz en bouteille, farine, huile et dernièrement de produits ménagers, l'excuse des sanctions américaines ne passe pas toujours auprès du public.
Un reportage écodicier d'ailleurs signé de Mithil Piron. Stéphane Witkowski, est-ce que l'impact de ces sanctions est très visible quand, comme vous, on revient de Cuba, d'un voyage à l'autre? Est-ce que vous avez constaté une dégradation de la situation et des facilités de vie quotidienne des Cubains?
Votre reportage résume parfaitement bien la situation, c'est-à-dire que ces sanctions qui sont effectivement la conséquence de l'activation notamment du titre 3 de cette loi Halliburton, qui est une loi extraterritoriale contraire à tous les principes de droit public international, affectent au quotidien les Cubains. Non seulement effectivement les pénuries, on les voit notamment devant les stations d'essence, car en fait, non seulement parce que Cuba est l'un des principaux partenaires, c'est le Venezuela, et les livraisons de pétrole ont été effectivement drastiquement réduites, mais surtout les paquebots qui devaient acheminer ce pétrole par des compagnies étrangères ont été victimes de ces sanctions, des groupes notamment anglais, panaméens, de Chypre, entre autres.
C'est-à-dire que les Américains leur disent interdiction de prendre du pétrole vénézuélien pour l'amener à Cuba, c'est ça ?
Et de toute autre destination, c'est-à-dire ils sont sanctionnés. Ces sociétés de transport sont sanctionnées, pénalisées déjà, et doivent payer au Trésor américain des sanctions et interdiction de transporter le pétrole. Donc ça, c'est une conséquence pratique, parce que ça, les Cubains effectivement font des queues pour avoir de l'essence, et puis surtout ça asphyxie l'économie, l'agriculture et le transport d'une manière générale. Oui, mais pas dans des positions proportions telles pour pouvoir s'auto-provisionner. Mais il y a aussi tous les biens de première nécessité, et en particulier les produits alimentaires, mais les médicaments, la vie au quotidien est très très compliquée, très très compliquée. Et puis aussi surtout, beaucoup de Cubains vivaient en particulier du tourisme, et la manne de ces touristes autorisés américains autorisés à venir à Cuba. Et ça a beaucoup affecté aussi concrètement la vie quotidienne des Cubains, qui pouvaient vivre un petit peu avec les petits auto-entrepreneurs de ces touristes, cette manne touristique.
Jérôme Leleu, je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire avec vous. Revenons aux origines, pour nos plus jeunes auditeurs, revenons aux origines de l'embargo américain sur Cuba. Il faut remonter aux années 60, et aux origines, au début quasiment du régime castriste, pour comprendre cet embargo.
Oui, l'embargo commercial, économique et financier, en tout cas de manière globale, se met en place en 1962. Et il va évoluer au cours du temps. Il y aura quelques assouplissements à partir sous l'administration Carter dans les années 70. Ronald Reagan reviendra à la fin des années 70. Au début des années 80, Ronald Reagan va revenir sur certains de ces assouplissements. Et cet embargo va être accru à partir des années 90, donc suite à la chute de l'Union soviétique et à la grave crise économique que connaîtra Cuba à ce moment-là, par deux lois, les lois Torricelli en 1992 et la loi Helms-Burton dont Stéphane Witkowski a parlé en 1996. Pour revenir plus récemment, effectivement, on avait eu sous Obama un assouplissement des sanctions économiques qui ont été plutôt bénéfiques pour Cuba, que ce soit pour le tourisme ou pour le commerce extérieur. Et effectivement, en 2019, vous avez cité les différentes mesures prises par Donald Trump pour aggraver cet embargo.
Jérôme Leleu, vous avez cité le nom de l'Union soviétique, de la Russie. En 62, c'est la crise des fusées. C'est pour ça qu'il y a l'embargo à l'époque.
Non, c'est pas lié à la crise des fusées, c'est lié essentiellement aux mesures politiques prises par le gouvernement révolutionnaire cubain entre 1959 et 1961, c'est-à-dire les nationalisations de biens états-uniens. En particulier, oui.
Stéphane Witkowski.
L'embargo de 62 était la conséquence de détérioration des relations diplomatiques exclusivement au départ pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'en réalité c'était la mise en place du programme économique de Castro et notamment la nationalisation des biens, notamment américains. Il y a eu donc des commissions d'indemnisation avec tous les pays du monde qui se sont faites dans des parfaitement organisées. Le seul pays qui a refusé toute indemnisation, c'était les Américains. Et à ce moment-là, il y a eu cette détérioration des relations diplomatiques et embargo qui a été décrété à ce moment-là. Et à l'époque, le régime cubain n'était pas socialiste ni communiste. Il est devenu socialiste après la tentative de débarquement de la baie des Cochons. Et c'est à ce moment-là que Fidel Castro a décrété le caractère socialiste de la révolution. C'est à ce moment-là, et la crise des missiles, cette alliance stratégique avec les soviétiques, c'était exclusivement pour avoir une sorte de paratonnerre, parce qu'ils savaient que l'administration américaine allait probablement débarquer militairement de manière beaucoup plus appuyée avec l'aviation. Il a voulu avoir une sorte de paratonnerre, si on peut dire, en faisant venir les missiles, d'où cette alliance stratégique, économique et politique qui s'est nouée à ce moment-là, mais après la crise des missiles, pas avant.
À quel point les relations entre les États-Unis et Cuba s'étaient-elles améliorées sous la présidence Obama, Jérôme Leleu, vous avez fait brièvement allusion. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement?
Au-delà du rétablissement des liens diplomatiques entre les deux pays, Obama avait assoupli donc l'embargo. Il avait permis au transfert d'argent depuis l'étranger, donc les remessas, d'être déplafonnés. Il y avait des possibilités de commerce entre les États-Unis et Cuba. Il y avait le développement des autorisations de voyage pour les visiteurs des États-Unis à Cuba, sous plusieurs catégories, même si les touristes restaient interdits. L'autorisation des bateaux de croisière, également, cela a été dit dans le reportage. Et donc tout cela a permis le développement du tourisme, en tout cas le développement du nombre donc de visiteurs venus des États-Unis à Cuba. Et ces assouplissements et ce rétablissement des liens diplomatiques entre les États-Unis et Cuba a eu aussi un impact positif sur la perception des pays tiers, hein, de l'Union européenne ou de l'Amérique latine, pour faire du commerce avec Cuba et pour investir également, hein, et ne pas être sous la coupe justement de sanctions possibles des États-Unis. Donc il y avait un certain espoir pour pouvoir investir et faire du commerce avec Cuba.
Il y a de grands groupes français en particulier qui sont implantés, qui travaillent avec Cuba.
Bien sûr, des grands groupes, Accor, Bouygues, Pernod Ricard, entre autres, bien sûr, réussissent depuis un certain nombre d'années, et espagnols, mais dont certains dirigeants, en particulier espagnols, dont les dirigeants ne peuvent plus maintenant accéder au territoire américain en vertu de l'activation du titre 4 aussi de cette loi Helms-Burton, qui est aussi des conséquences.
La loi Helms-Burton que vous avez évoquée, Jérôme Leleu également.
Qui existe effectivement depuis 1960. Ce que disait Jérôme Leleu, depuis l'administration Clinton. Et à ce moment-là, il y avait un titre 3 qui avait été reporté de 6 mois en 6 mois par les présidents américains, mais qui a été effectivement renforcé et mis en œuvre par l'administration Trump. Juste un mot pour peut-être préciser que, comme le disait Jérôme Leleu, il y a eu, avec Obama, un rétablissement des relations diplomatiques et la mise en œuvre d'une sorte de soft power avec une approche intelligente des relations entre Cuba et les États-Unis. Mais la normalisation impliquait deux conditions. D'une part, la levée de l'embargo qui a toujours été maintenu parce qu'effectivement, ça dépend d'une loi au Congrès. C'est une loi. Il faut donc une majorité au Congrès pour changer cette loi. Et deux, il y a toujours le statut de Guantanamo qui est d'une base militaire américaine dans l'île, mais qui remonte au début du siècle, du 20e siècle.
Il y a des problèmes d'approvisionnement pétrolier, on l'a dit abondamment, à tel point que la traction animale est encore plus utilisée à Cuba que par le passé. C'est un pays dont l'économie est à genoux.
Elle est dans une situation extrêmement difficile qui fait beaucoup penser à ce qu'on appelait la période spéciale en temps de paix, c'est-à-dire après la disparition de l'Union soviétique où effectivement la dégradation de la situation économique était très 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 grande. Elle est dans une espèce d'économie de guerre, de résistance en quelque sorte, mais ils ont les autorités cubaines essaient de multiplier les partenariats économiques avec la Russie, avec la Chine, avec certains pays, le Venezuela, certains pays européens, certains pays africains, et ils essaient malgré tout de maintenir la tête hors de l'eau dans des conditions très 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 difficiles.
Jérôme Leleuve, vous diriez que l'économie cubaine est à genoux aujourd'hui ?
Au regard des chiffres, elle n'est pas à genoux comme elle avait pu l'être au début des années 90.
C'est-à-dire après l'effondrement de l'Union soviétique, l'arrêt des livraisons.
Voilà, exactement. Si on regarde entre 1989 et 93, le PIB chute d'environ 35%. Pour l'année 2019, alors il est assez étonnant que le gouvernement cubain n'ait pas annoncé d'estimation propre, qui viennent du gouvernement ou des instituts statistiques cubaines, mais a repris une estimation de la CEPA, de la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU, qui estime une croissance du PIB de 0,5% en 2019. Donc Cuba a insisté pour dire que l'économie ne décroît pas en 2019. Il n'en reste pas moins que la situation est très compliquée, en particulier, comme l'a dit Stéphane Witkowski, sur la situation du combustible. Cuba a vécu les quatre derniers mois de l'année avec 50% de ses besoins en combustible, donc ce qui a entraîné une désorganisation assez importante des administrations, mais des entreprises productives publiques et du transport de marchandises et de passagers. Pour revenir sur un chiffre, Cuba est autosuffisant à 38% en pétrole. Et effectivement, tout ceci est lié donc aux sanctions des États-Unis. Pour revenir quelques années en arrière, la situation de l'économie cubaine était déjà compliquée avant le renforcement des sanctions des États-Unis. Elle avait été compliquée par la dégradation économique du Venezuela dès la fin de l'année 2015 et en 2016. L'économie avait...
Ce que vous nous dites, l'un et l'autre, c'est que Cuba n'a survécu, en gros, au fil des années, que grâce au soutien, un temps de l'Union soviétique, un autre du Venezuela, c'est ça ?
Oui, en 2014, le Venezuela, c'est 40% des échanges extérieurs de Cuba, en particulier du pétrole. Le Venezuela exporte du pétrole à Cuba et Cuba exporte... En particulier, on y reviendra sûrement dans le reportage, du personnel médical.
On va en parler dans une seconde.
Au Venezuela. Après la dégradation économique du Venezuela, en 2017, le Venezuela ne représentait plus que 17,7% des échanges extérieurs cubains. Donc une chute drastique des échanges entre ces deux pays qui s'est reportée en partie sur la Chine qui en 2017 était le premier partenaire commercial de Cuba.
Auquel s'ajoutent peut-être des blocages structurels de l'économie cubaine et comme le dit le président Miguel Díaz-Canel, il faut déverrouiller...
Qui a succédé à Raúl Castro,
qu'il faut déverrouiller, pour employer son expression, l'économie cubaine. Mais dans le contexte international, c'est très très compliqué pour eux de le faire. Mais il y a quand même beaucoup de contraintes bureaucratiques, évidemment, internes. Il y a effectivement un appareil d'État qu'il faut effectivement alléger, renforcer la décentralisation qui a été déjà mise en œuvre par la nouvelle constitution cubaine. Mais il y a un certain nombre de réformes de fond dont les autorités cubaines sont conscientes. Mais il est vrai que cette pression, ces contraintes extérieures pèsent beaucoup et ne favorisent pas beaucoup la libéralisation de l'économie cubaine.
Alors, l'un des secteurs qui est affecté aussi par la crise économique cubaine, ou qui est à l'origine, ou qui est une des conséquences du durcissement des relations extérieures cubaines avec les pays voisins, eh bien, c'est ce que Jérôme Leleuve vous évoquait, le secteur médical, parce que Cuba a depuis longtemps exporté ses médecins dans le monde entier, en Afrique, en Amérique latine, au Brésil, en Bolivie aussi, et ces médecins cubains ont été renvoyés du Brésil, mais aussi de Bolivie. Plus de 200 d'entre eux, par exemple, sont rentrés le 15 novembre dernier à La Havane de Bolivie, et au total, ce sont 725 médecins dont le retour depuis la Bolivie était annoncé. Domitil Piron était à l'aéroport de La Havane lors du retour des premiers d'entre eux. Écoutez son reportage diffusé le 16 novembre 2019 sur les antennes de RFI.
C'est en héros que les médecins cubains sont arrivés hier soir à l'aéroport de La Havane. Les 200 premiers professionnels de santé cubains à avoir quitté la Bolivie opéraient dans le sud du pays, dans la province de Gran Chaco. Marlon Morales, ophtalmologue, regrette de ne plus pouvoir exercer sa mission solidaire avec les Boliviens.
Je suis content d'être rentré dans ma patrie en vie, mais je me sens aussi très triste. Triste des conditions dans lesquelles nous avons vécu ces derniers jours. Nous avons été harcelés, principalement par la police, qui cherchait à nous accuser de choses dont nous ne sommes pas responsables. Notre seul objectif était de rendre un service à la population.
Harcèlement et abus du gouvernement intérimaire bolivien, voilà les raisons pour lesquelles Cuba a rapatrié ses ressortissants. 4 d'entre eux sont encore détenus par les autorités boliviennes, accusés de financer et aider les protestations violentes en faveur du retour d'Evo Morales en Bolivie. Le ministre de la Santé, le docteur José Ángel Portal Miranda, accueillait hier soir ses compatriotes.
Les médecins cubains ont toujours été du côté du devoir, même dans les circonstances les plus compliquées, mais toujours sur la base du respect et de la reconnaissance du pays hôte.
Après 34 ans de présence médicale cubaine en Bolivie, les 725 médecins seront prochainement rapatriés, une décision qui intervient après le départ d'Evo Morales et alors que Cuba dénonce un coup d'État en Bolivie.
C'était donc un reportage diffusé sur les antennes de RFI au mois de novembre dernier, signé Domitil Piron dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons de l'économie cubaine avec deux invités, Jérôme Leleu et Stéphane Witkowski. Jérôme Leleu, cette exportation de médecins, ça a été un gros apport économique pour Cuba au fil des années.
Complètement. C'est la première entrée de devises pour le pays. Ça a représenté jusqu'il y a 3 ou 4 ans jusqu'à 9 milliards de dollars par an, ce qui est très important et largement supérieur aux rentrées de devises liées au tourisme ou aux exportations de biens, que ce soit le nickel ou le sucre. Ces ressources ont diminué déjà depuis 2016 avec la crise vénézuélienne qui ne peut plus accueillir autant de médecins cubains.
Comment ça se passait? Cuba, dont le système de formation est réputé, envoie ses médecins à l'étranger. Ces médecins sont payés, ils restituent des salaires à l'administration, ou est-ce que c'est un échange d'État à État et puis les médecins reçoivent une petite rémunération? Comment ça se passe?
Sur les accords avec le Venezuela, c'est assez opaque, donc on a peu d'informations sur la manière dont les transferts se font. Après, l'exemple brésilien était assez bien documenté, où le médecin cubain au Brésil recevait environ un tiers du prix payé par le Brésil pour le médecin, et Cuba recevait les deux autres tiers, en tout cas dans la première partie de l'accord. Mais donc, pour revenir sur les chiffres, voilà, en 2018, les devises liées à ces échanges représentaient 6 milliards 300 millions, donc
comparé aux 9 milliards
des années précédentes. Selon les premières estimations, en 2019, on aurait plusieurs centaines de millions de ressources en moins liées au départ des médecins du Brésil et des difficultés du Venezuela. Et on peut s'attendre pour 2020 à des ressources encore moins importantes en raison du départ donc des médecins de Bolivie. Il faut rappeler aussi qu'ils sont partis d'Équateur.
Stéphane Witkowski, c'est impressionnant, cette manne médicale cubaine. C'est complètement inédit, ce phénomène.
Mais ça correspond depuis le début de la révolution de 59, c'est-à-dire la volonté de Fidel Castro d'envoyer des médecins surtout partout dans le monde pour éradiquer les maladies, les épidémies, et aussi pour venir quand il y a des catastrophes naturelles. Et actuellement, il y a 44 000 médecins cubains dans le monde, et qui, effectivement, comme le rappelait Jérôme Leleu, qui constitue la première source de rentrée du pays. En deuxième position, les remessas, c'est-à-dire les envois
des expatriés.
Et le troisième poste, c'est le tourisme. Et cette vocation, je dirais, médicale, qui correspond effectivement à la qualité des médecins et d'un pôle de biotechnologie absolument exceptionnel. Il y a quand même 30 000 chercheurs complètement dédiés à ces à ce pôle de biotechnologie qui exporte notamment des médicaments génériques dans 54 pays dans le monde, et qui trouve des médicaments dans un certain nombre de domaines ou des vaccins particuliers. Et cette vocation correspond aussi à pour les autorités cubaines une volonté de nouer un certain nombre de partenariats dans le monde. Mais ça remonte depuis le début de la révolution.
Alors, on expose cette crise cubaine à ce micro quand on parle de semblables crises économiques en Afrique ou dans les pays d'Europe de l'Est ou que ce soit, même en Europe. On parle aussi manifestations, colère populaire. Alors, Cuba, c'est un régime assez autoritaire, très centralisé, il y a des prisonniers politiques. Il n'y a malgré tout pas de mécontentement perceptible dans la population, Stéphane Witkowski?
Alors, c'est un régime, je dirais, atypique qui échappe à toutes les classifications politiques de la science politique. C'est un système économique et politique qui est issu d'une révolution populaire et nationale. Il faut d'abord toujours cela avoir en tête et que la population reste très, très attachée à, effectivement, à des concepts d'indépendance nationale, de souveraineté nationale. Et la population, qui a un très haut niveau de formation, est une population extrêmement exigeante par rapport à ce qu'on lui dit, et notamment ce que disent les dirigeants. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est discuté, négocié, malgré le fait, effectivement, que c'est un régime qui ne correspond pas aux critères d'une démocratie parlementaire classique. Mais le régime lui-même fait l'objet en permanente d'une sorte de concertation interne de la population, et toutes les décisions, y compris sur le plan économique, font l'objet toujours de ballons d'essai pour s'assurer que la population suivra. Parce qu'au fond, des mesures totalement impopulaires imposées de haut ne pourraient absolument pas fonctionner dans un système comme le système cubain. Pour prendre un exemple, pour revenir sur les questions économiques, il y a un grand enjeu économique majeur, c'est l'unification politique et monétaire du pays, puisqu'il y a deux monnaies qui sont en circulation. Et cette mesure qui avait été annoncée à plusieurs reprises...
C'est-à-dire deux monnaies...
Il y a deux monnaies, il y a ce qu'on appelle un peso cubain.
Il y a une monnaie convertible.
Et il y a un peso convertible qui a à peu près un taux de plus ou moins $1 pour un Cook. Mais l'objectif annoncé à plusieurs reprises, c'est de venir à cette unification monétaire. Mais ça, c'est une unification, une mesure politique qui aura un coût social très très important dans la population. Et donc les autorités sont très prudentes, d'une part. Il faut effectivement définir le taux de change pour pouvoir effectivement définir cette parité, et les conséquences sociales dans le pays seraient très importantes. Donc ils font des espèces de tests en ce moment, de ballons d'essai, pour essayer de voir comment la population réagit. Tout ça pour répondre à votre question, c'est que sur des sujets aussi importants parmi d'autres, les autorités cubaines sont à la fois très, très prudentes, et toujours ce souci d'associer la population dans des cercles de discussion à tous les niveaux de la population.
Mais qui sont contrôlés par le Parti communiste cubain?
Alors, il y a un parti unique qui est le parti unique, il n'y a pas d'autre parti, mais les débats de discussion, elles n'ont pas lieu seulement dans le parti, mais dans des cercles d'économistes, dans ce qu'on appelle les comités de la révolution, dans les ateliers, dans les usines, dans les écoles, dans les universités, dans tous ces lieux. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a une vivacité intellectuelle dans le pays, y compris sur les questions économiques et sociales, assez considérable. L'élaboration de la Constitution l'année dernière a fait l'objet de ce même processus.
Jérôme Leleu, est-ce qu'on débat vraiment à la base, dans des cercles comme ça, du taux de change entre le dollar et la monnaie cubaine?
Non, cela dépend des thèmes. Effectivement, lorsqu'il y a des grandes modifications, comme ça a été le cas pour la Constitution l'année dernière, mais également lors de la révision constitutionnelle du début des années 90 ou de la restructuration du secteur sucrier au début des années 2000, on a effectivement de grandes consultations. Et le fait donc que le gouvernement consulte, et où le Parti communiste consulte la population, comme l'a dit Stéphane Witkowski, cela permet à celui-ci de se rendre compte des exigences des attentes et des craintes de la population cubaine. On a pu le voir l'année dernière sur pour la Constitution. Le thème le plus polémique ou problématique qui ressortait des débats donc dans les quartiers, c'est l'ouverture, un article qui en gros amenait à l'ouverture pour le mariage pour tous, si vous voulez. Le gouvernement cubain a retiré cet article. Parce que voilà, ils sentaient que la population n'était pas prête à accepter. Ensuite, ce qui ne veut pas dire que l'ensemble de la population cubaine accepte et n'est pas mécontente de la situation. Après, on dit souvent que les Cubains votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils émigrent. Et c'est vrai que l'émigration cubaine vers l'étranger continue. Qui plus est aujourd'hui où la facilité pour voyager a été simplifiée depuis une dizaine d'années. Et donc, le mécontentement, il se joue surtout sur l'émigration. Une émigration surtout économique, c'est surtout le manque, les pénuries, les faibles salaires, les faibles perspectives économiques qui font que les Cubains émigrent.
Il y a une situation, Stéphane Dukowski, un peu paradoxale, c'est il y a cet embargo durci par Trump. On n'a pas encore d'ailleurs dit pourquoi Trump avait durci l'embargo.
Pour des raisons très classiques, depuis toujours, tous les présidents américains, à l'exception d'Obama, mais qui avait été réélu, n'avaient pas besoin du lobby intérieur pour se représenter. Tous les présidents américains ont besoin de tous les lobbies pour se représenter. Et le lobby cubano-américain pèse beaucoup, non tellement sur le plan électoral, mais sur le plan financier. Et ce lobby qui représente plus ou moins 1,5 million de Cubains, cubano-américains aux États-Unis.
En Floride?
Notamment en Floride, mais pas seulement, dans New Jersey, dans d'autres États, qui constituent des États majeur, stratégique. On avait vu la première élection de Bush, combien ils avaient eu des difficultés à recompter les votes pour la première élection de Bush. Et donc ces lobbies-là pèsent beaucoup plus que n'importe quel enjeu international pour le président américain. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et comme en plus il a besoin de certains alliés au Congrès pour faire passer ses réformes, il compte sur certains hommes politiques américains d'origine cubano-américaine.
On retourne sur le terrain avec un nouveau reportage à Cuba. Les bas salaires et les emplois peu productifs des entreprises d'État n'attirent plus les jeunes. Ils sont ingénieurs ou juristes et pourtant ils préfèrent travailler comme serveurs dans des restaurants privé ou comme maçon. Cuba forme gratuitement à des études assez poussées sa jeunesse, mais se trouve incapable de lui proposer des emplois attrayants. Et le gouvernement a reconnu récemment qu'il fallait apporter une attention particulière à cette question. Un reportage éco d'ici éco d'ailleurs de notre correspondante à La Havane, Domitille Piron.
Dans le quartier animé, odorant, tantôt rénové et tantôt en ruine de la vieille Havane, nous empruntons l'une des rues les plus touristiques. Derrière nous, le Capitole, et devant la porte de chez Lorena, une Chevrolet noire des années 50. Lorena Faccio a ouvert ici une maison d'hôte il y a 6 mois à peine, après 2 années au service de l'État en tant que juge en droit civil.
Franchement, je ne vivais pas avec le salaire de l'État. J'adore le droit et j'espère un jour pouvoir exercer de nouveau mon métier. Et je ferai tout pour. Mais je gagne bien mieux ma vie en travaillant à mon compte.
Lorena gagnait 1200 pesos cubains, soit environ 45 dollars. Aujourd'hui et depuis son ouverture, la maison d'hôte de 4 chambres à 25 dollars la nuit est presque toujours pleine. C'est donc avant tout pour une question monétaire que les jeunes comme Lorena ne souhaitent plus travailler pour l'État.
Pour moi, c'est vraiment triste de voir que des jeunes talents, je dis talents parce que la formation et les études supérieures à Cuba sont de très bon niveau, sont obligés de partir de Cuba. Tous ne partent pas, mais par exemple mes collègues et collaborateurs, ils travaillent comme guides touristiques, mais ils étaient ingénieurs automatiques ou professeurs à l'université de lettres. Ils ont étudié plusieurs années et à la fin, ils se rendent compte non pas que ça ne leur plaît pas, mais qu'ils ne peuvent pas en vivre.
Lorena fait partie de ces plus de 600 000 travailleurs du secteur privé, dont 28% sont des jeunes qui ont l'envie de se sentir utiles, concernés et responsables, mais un travail de fonctionnaire semble incompatible avec ces envies. Si 70% de la population active travaille encore aujourd'hui pour l'entreprise d'État socialiste, Cuba a de plus en plus de mal à embaucher dans les secteurs de la finance, l'économie et la comptabilité. Yonairi Estrada, la trentaine, était comptable. Enceinte, elle a décidé de se lancer dans la confection de papier recyclé. Après de longs mois de gestion administrative et malgré le fort taux d'imposition, Yonaeli est devenue auto-entrepreneur.
Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir beaucoup d'indépendance. J'assume toutes les responsabilités, mais ça me convient. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui dépendent de moi, donc je me sens obligée de continuer d'avancer et chercher toujours plus de travail. Mais j'ai aussi la possibilité de faire des choses qu'il est difficile de faire avec un emploi dans l'administration publique à cause des directives et des lois.
Dans cet atelier qui est l'arrière-cour de sa maison entre deux immeubles, Yonaeli a recyclé en 2019 600 kilos de papier qu'elle reconditionne grâce entre autres au travail de sa famille, des retraités qu'elle a souhaité aider, ainsi que deux jeunes étudiants, car avoir un impact sur sa communauté lui tient aussi à cœur. S'il y a quelques années, le secteur privé était plutôt mal perçu à Cuba, les jeunes en ont une autre image. Ils créent des entreprises privées, mais n'oublient pas pour autant leur héritage socialiste, bien qu'aucune protection des travailleurs n'existe dans ce secteur privé en pleine croissance.
Un reportage signé Domitil Piron. Jérôme Leleu, vous qui travaillez sur la planification économique à Cuba, là on est complètement sorti de votre domaine d'investigation. Il y a beaucoup de Cubains qui cherchent à fuir cette planification dans leur vie quotidienne de travailleurs.
Oui, parce que d'une certaine manière, ça offre plus de perspectives financières. Généralement, on a une probabilité plus importante d'avoir des revenus supérieurs dans le secteur privé que dans le secteur d'État. Alors, il faut aussi rappeler que le gouvernement essaie de résoudre cette problématique. Il a par exemple cette année augmenté le salaire dans le secteur d'État, en particulier dans l'éducation, dans le sport, dans la culture. Le salaire moyen va augmenter de 400 pesos dans ces secteurs, de 667 à 1067 pesos, dans l'objectif justement de ramener des individus qui sont sortis du secteur d'État vers des postes où il peut y avoir des manques, comme dans l'éducation. Après, il faut aussi rappeler que l'État a incité des Cubains à sortir du secteur public en 2010. L'objectif, c'était 1 million de travailleurs en moins dans le secteur public. L'objectif n'a pas été atteint, mais c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été évincées, entre guillemets, du secteur public pour justement s'inclure dans ce secteur, ce qu'on appelle le travail à compte propre, qui a été développé.
La cuenta propia, voilà. Voilà. En espagnol.
C'est ça, exactement. Ou dans l'agriculture également.
Auto-entrepreneur, dites-vous, Stéphane.
Oui, enfin, c'est ça, cuenta propista, c'est à peu près, entre guillemets, auto-entrepreneur. C'est un peu compliqué parce que c'était des petits métiers parallèles qui étaient exercés au départ de manière au marché noir. C'est parce que, effectivement, les pesos cubains ne permettaient pas aux salaires ou aux fonctionnaires de vivre de manière correctement et ils avaient besoin, effectivement, de ces petits métiers parallèles pour pouvoir vivre mieux correctement. Et la volonté de Raúl Castro, ça a été de légaliser effectivement ces petits métiers indépendants. Donc il y avait une liste qui avait été élaborée et ce secteur a été non seulement légalisé mais totalement reconnu dans la nouvelle constitution.
Mais aujourd'hui
ça fait 620 000 personnes à peu près.
Mais Stéphane Kwiatkowski, c'est 620 000 petits entrepreneurs. Il n'y a pas de société, de grandes entreprises privées cubaines qui se soient développées.
Il n'y a pas de secteur privé, bien entendu.
Digne de ce nom.
Comme on pourrait l'imaginer en France.
Vous avez travaillé au MEDEF, il n'y a pas de MEDEF cubain.
Non, il y a la Chambre de commerce de Cuba qui est l'équivalent l'homologue du patronat français, mais avec qui les relations sont d'ailleurs très étroites. Il y a eu d'ailleurs 13 délégations du MEDEF à Cuba depuis une vingtaine d'années, mais il n'y a pas de patronat au sens classique du terme, bien
Jérôme
entendu.
Jérôme Leleu.
Effectivement, ce qu'on appelle les travailleurs à compte propre à Cuba n'ont pas de personnalité juridique, elles sont considérées comme des personnes physiques, au sens légal. Donc elles ne sont pas considérées comme des entreprises. Malgré tout, un travailleur à compte propre, par exemple, qui gère un restaurant et qui est propriétaire d'un restaurant, peut avoir des employés. Et ça, c'est une nouveauté donc, dans la réforme du travail à compte propre de 2010. Mais il faut savoir, et ça c'est assez intéressant, c'est que ces employés qui vont travailler dans ce restaurant, mettons, sont eux-mêmes des travailleurs à compte propre. Aujourd'hui, on compte, en fait, il y a une catégorie autorisée dans le travail à compte propre, ça s'appelle empleados contratados, c'est-à-dire employés sous contrat. C'est-à-dire que ces employés ont également le statut juridique de travailleurs à compte propre, d'entrepreneurs, alors que ce sont, dans les faits, hein, dans les rapports de production, si je peux m'exprimer ainsi, des salariés du secteur privé. Ils représentent plus de 20% des travailleurs à compte propre. Donc sur les 600 000 environ travailleurs à compte propre que l'on trouve aujourd'hui à Cuba, en fait, vous en avez que 480 000 ou entre 450 et 480 000 qui sont de réels entrepreneurs et qui sont propriétaires de leurs restaurants ou de leurs moyens de production.
Et ce sont des gens qui arrivent à vivre décemment de leur travail ?
Cela va dépendre de leur activité, cela va dépendre de leur localisation. Par exemple, dans les zones touristiques, avoir un restaurant, une cafétéria, ça va être beaucoup plus rentable. Il y a aussi le fait que on peut avoir une concurrence aussi exacerbée. Par exemple, à La Havane, vous avez de multiples restaurants, de multiples cafétérias. Donc, voilà. Après, on est dans l'économie de marché, donc il faut jouer sur les prix, la qualité, etc.
C'est à la fois une économie socialiste de marché ou une économie de marché socialiste. On ne sait pas très bien comment la définir. Mais les autorités cubaines essaient de développer une troisième voie, si on peut dire, entre les deux secteurs, secteur public, secteur d'État, et puis secteur privé, entre guillemets, avec toutes les restreintes, les contraintes que l'on sait. Mais les autorités essaient de développer une économie sociale, en quelque sorte, à base de coopératives agricoles, mais pas seulement dans le domaine agricole, et de trouver, au fond, des statuts un peu intermédiaires, où ils essaient de concilier à la fois puissent conserver, parce que toute la difficulté des autorités consiste à la fois à conserver les acquis sociaux de ce qu'on appelle le régime depuis le début de la Révolution, auxquels la population sont extrêmement attachés, et puis cette nécessité de s'ouvrir à des investisseurs privés, parce que c'est une des exigences qui est demandée par les autorités, et en même temps de s'insérer dans l'économie, dans le système économique international. Et donc il y a ces deux contraintes qui guident en quelque sorte. C'est une voie extrêmement étroite que le gouvernement suit depuis une dizaine d'années pour essayer de maintenir le cap entre ces deux écueils.
Un autre secteur de l'économie cubaine qui a fait beaucoup débat, qui faisait illusion encore au début du régime castriste, c'est celui de l'agriculture. On se souvient des grandes épopées de récolte de canne à sucre. Pourtant, alors qu'avant la révolution de 59, Cuba parvenait à subvenir à 80% de ses besoins alimentaires, actuellement, cette grande île des Caraïbes importe exactement le même chiffre, 80% de son alimentation. Cependant, il y a peut-être un modèle agricole à retenir à Cuba, c'est celui de son agriculture urbaine. La Havane est considérée comme pionnière en matière de circuit court en ville. C'est un reportage éco-d'ici éco d'ailleurs, signé Domitil Piron à La Havane.
C'est effectivement ici du circuit ultra court. Il est 8h du matin sur la parcelle de l'Organoponico, c'est comme ça qu'on appelle ici les potagers urbains, quand les 7 ouvriers récoltent les légumes dans les allées de ce jardin potager de 1800 mètres carrés. On en oublierait presque que nous sommes entre la 5e avenue très passante de La Havane et l'océan 3 rues plus loin. Nous sommes en plein quartier résidentiel de Playa et à peine une heure après la récolte, des dizaines de clients font déjà la queue devant l'étal tenu par Lissette.
Aujourd'hui, nous avons des épinards, des radis rouges, de la roquette, de la chicorée, des bêtes, de la laitue et de la nette.
On compte à La Havane une centaine d'organoponico. C'est un système d'agriculture urbaine créé ici. Et ce sont de longues rangées de bacs de béton légèrement surélevés dans lesquels un mélange de terre, de substrat et de matière organique permet la culture de légumes feuilles et d'aromates pour un rendement plus que convenable. Rodolfo Chongo, administrateur de l'organoponico.
Nous sommes environ à 200-250 kg par récolte. Nous avons une moyenne par mètre carré de 16 kg de production par an, ce qui est un chiffre assez important. Nous travaillons sur la base d'un plan de production et de vente annuel. C'est en suivant ce plan que nous semons et que nous travaillons. Ce mois-ci, par exemple, nous devons récolter 3,2 tonnes. Alors, il faut travailler, c'est intensif. Dès qu'un bac est vidé, on replante derrière et nous ne cultivons que des légumes de circuit court. Et c'est comme ça qu'on parvient à suivre la planification.
ces légumes ne remplissent pas entièrement l'assiette des Cubains, loin de là, mais ils sont de qualité à un prix très accessible et cultivés sans intrants ni aucun produit chimique. Héritage de la période spéciale dans les années 90, après le départ des Soviétiques, les organoponicaux ont été développés à Cuba comme une solution face à la pénurie. Et pour 2020, le ministère de l'Agriculture table sur 10 000 hectares d'organoponico sur l'île, en profitant de chaque espace, patio et jardin, de particuliers également. Un modèle en matière d'agriculture urbaine selon Niuka Naval.
Les organoponico ont été créés par nécessité et nous en sommes très fiers. Nous sommes fiers de pouvoir faire tout cela seulement sur la base de la nature. Les principes ici, c'est qu'on récupère tout, on ne jette rien.
Interdit de jeter, reprend l'administrateur de l'organoponico, car à Cuba, la récup et le recyclage ne sont pas une mode, mais un besoin.
Reportage signé de Mithil Piron à La Havane. C'est un peu quand même l'agriculture de la débrouille, Jérôme Leleu.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais...
C'est du bricolage.
Ici, c'est du bricolage. Après, l'État, depuis les années 90, a fortement réduit son poids dans la production, hein, d'être directement dans la production du secteur agricole qu'il contrôlait auparavant à plus de 80%. Il a développé des coopératives qui restent malgré tout relativement contrôlées par l'État. Il a surtout, depuis 2007-2008, octroyé des terres en usufruit à des agriculteurs privés, à des personnes qui sortaient du secteur public, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ou à d'autres coopératives. Ce qui, il a également développé les marchés agricoles. Auparavant, dans les années 80, il y avait quasiment que des marchés agricoles d'État. Aujourd'hui, on a des marchés libres, des marchés coopératifs, des coopératives non agricoles qui gèrent des points de vente. Ça n'a pas eu, pour le moment, dans les chiffres, d'impact réel sur la production. On n'a pas d'augmentation massive de la production, ce qui explique que les importations alimentaires restent élevées, mais ça a malgré tout permis une meilleure circulation et distribution des produits, et ça on peut le voir en tout cas dans certaines villes. Malgré tout, on a toujours un problème de main-d'œuvre dans le secteur agricole, les revenus ne sont pas suffisants, et ça c'est un problème qui date depuis les années 60, et des problèmes liés également au matériel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et là l'embargo joue également son rôle.
Stéphane Witkowski.
L'autosuffisance alimentaire est une priorité absolue des autorités cubaines. Et Cuba, on estime que Cuba doit apporter 1,65 milliard de dollars de nourriture pour satisfaire les besoins de la population.
Et l'embargo ne gêne pas ces importations ?
Non, parce qu'il y a une exception dans l'embargo depuis 2000, ce qu'on appelle la TSRA, qui permet effectivement aux Américains de fournir des produits agroalimentaires, ce qui a permis aussi d'évincer les concurrents européens et notamment français, mais notamment le blé en particulier. Vous savez qu'aujourd'hui, malgré l'embargo et malgré tout ce que l'on vient de dire sur l'embargo, les États-Unis sont le cinquième partenaire commercial de l'île et le premier fournisseur de produits agroalimentaires de l'île. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour revenir à votre question, cette préoccupation de cette agriculture urbaine et familiale est extrêmement importante parce qu'elle permet de limiter les coûts de transport en particulier, et donc les consommateurs consomment sur place, et qui sont aussi très sensibles à tout ce qui touche au développement durable et écologique, et en particulier, notamment, un certain nombre de petits produits locaux, le concombre, l'aubergine, les haricots, etc., qui sont faits localement, et qui permettent quand même de plus en plus, à non seulement dans les villes, mais dans les banlieues, de créer des petites coopératives, en particulier pour des coopératives d'arbres fruitiers dans diverses municipalités. Donc c'est un programme qui est assez ambitieux, sur lequel le gouvernement cubain insiste beaucoup.
Eh bien, cette émission est maintenant terminée. Elle était réalisée et mise en onde par Guillaume Buffet. Merci à vous deux, Jérôme Leleu et Stéphane Witkowski, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur l'application Pure Radio de votre smartphone à l'onglet émission, ça c'est l'application de RFI, ou nous retrouver via votre application favorite de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.